Les cours du Collège de France, Bao Chao Ngo, chères formes automorphes.
Bonjour. La semaine dernière, ou il y a deux semaines, j'ai parlé, fait un rappel du centre de Bernstein, des choses dont j'ai besoin. Donc aujourd'hui, je vais faire des développements sur le co-centre, l'île de Cashdan. Ce n'est pas vraiment une nouvelle notion, mais juste, je pense que ça mérite un nom, c'est sur la complétion du co-centre. Donc la plupart des choses dont je vais parler, ça revient dans les articles de Cashdan, dans le dernier 3, l'année 1986. Donc, comme la semaine dernière, on a un groupe réductif G. Sur un corps local, on a qu'un médian F. Et donc, on a H, c'est l'algèbre des mesures localement constantes sur G de F. Donc, localement constant, ça veut dire que c'est la mesure de R multipliée par une fonction localement constante et qu'on veut que ces fonctions soient supercompactes. Alors, on préfère parler de l'algèbre de mesure parce que le produit convolution serait bien défini sans avoir recours au choix d'une mesure de R. Donc, je rappelle que pour les tout sous-groupe K, sous-groupe compact ouvert compact, on a la mesure caractéristique, donc c'est la mesure de A sur K, qui est normalisée de sorte que K lui-même a la mesure à la volume A, et quand on prolonge par 0 à G de F, on obtient un idempotent. Donc on a H, c'est idempotent dans H. Et on a HK et consiste en des mesures qui sont invariantes à gauche et à droite par K. Et H est l'algèbre de Hecke, c'est la limite inductive des HK, parce que K parcourt l'ensemble des sous-groupes compactes ouvertes. Donc on a le centre de Bernstein. Donc, j'ai rappelé plusieurs définitions équivalentes la semaine dernière. Je me contente de rappeler que la première, donc on a Z, c'est la limite projective de ZK, où ZK est le centre de HK. Ouais, donc, c'est les limites qui sont prises dans les centres différents. Donc c'est un peu confusant au début, mais en fait là, on s'y habitue assez vite. Donc si K est K' est un sous-groupe de K, les deux sont des sous compactes ouvertes. Eh bien, on a HK se plonge dans HK'. C'est un homomorphisme multiplicatif, mais qui n'envoie pas l'unité sur l'unité. Donc l'unité ici, c'est EK, c'est EK'. Ça ne s'envoie pas l'unité sur l'unité. Donc ici, on a l'action de ZK'. Ici, l'action de ZK, c'est la multiplication. Et là, on a la flèche dans l'autre sens, qui Z s'envoie sur Z convolus EK, c'est la même chose que K convolus Z. Et ça, c'est compatible, donc l'action de ZK' sur ZK, ça se factorise par ZK. Donc ça, c'est le centre, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le co-centre. Donc on a H, le co-centre. C'est bien sûr, c'est le H divisé par le commutateur H. Et H, c'est un Z module. Donc, bien sûr, le commutateur est aussi un sous-z module, donc ceci est un z module. Donc, ça peut aussi obtenir comme une limite, parce que on voit HK divisé par le commutateur HK avec HK. Donc, bien sûr, c'est un ZK module. Et si on a K' un sous-groupe compact ouvert plus petit, eh bien, on a la flèche de HK dans HK' qui envoie le commutateur dans le commutateur. Et du coup, on a une flèche entre les concentres. Et qui est compatible. Oh. Mais ici, il faut faire attention que ces flèches n'aient pas toujours injectif. Donc HK est un sous-espace HK', mais lorsqu'on intersecte HK avec le commutateur de HK', ça contient le commutateur de HK, mais que ça peut être différent. Mais n'empêche qu'on a quand même la limite inductive. C'est H dans H. En fait, il y a une façon de le présenter un peu plus clair. C'est au lieu de prendre tous les sous-groupes compacts ouverts, on se restreint à des sous-groupes compacts ouverts qui sont en bonne position par rapport à un sous-groupe de triangulaire. Donc il y a cette notion de sous-groupe compact ouvert en bonne position. Donc il est en bonne position. Donc qui soit plus variable dans en relation avec l'induite parabolique. Donc on a des. Je prends simplement une famille. Donc il y a une famille Kn. C'est le noyau. Donc je suppose que G soit déployé pour me simplifier la vie. Donc je prends G de O. Dans G de O, P puissance N avec N au moins égal à A. Donc du coup, avec ce sous-groupe-là, c'est facile de voir que Kn est... Si on a Kn et... Kn intersecte avec U de F fois Kn intersecte avec T de F fois Kn intersecte avec U moins et U de F. Donc cette écriture, ça veut dire que vous prenez ce sous-groupe, ce sous-groupe, ce sous-groupe, et comme c'est la multiplication, eh bien ça fait une bijection, ça fait une... ça vous fait une homéomorphie. Ce n'est pas homomorphe de groupe parce que ça ne il y a un problème de commutation, mais n'empêche que la flèche ici, la flèche de multiple de trois facteurs définit un homéomorphisme. Ça se vérifie pas cette définition. C'est plus ou moins le lemme de Hansen qui vous fait ça. Donc avec ce, on a la même chose. Donc ici T est un, donc B et TU, c'est le Borel, c'est un sous-groupe de Borel, et T c'est un temps maximal que je suis pour déployer. Je crois que c'est pas nécessaire, mais pas trop envie de réfléchir sur comment la bonne définition dans le cas plus général. Et la même chose. La même décomposition pour les. Quand on remplace T par un sous-groupe de Lévy standard. Donc un groupe de Lévy qui contient le temps maximal. Donc dans ce cas-là, les choses sont beaucoup plus variables parce qu'on a. Donc si. Donc ça, c'est des, ça vient de l'article de Bernstein et Delin. Et donc, dans ce cas-là, les limites sont beaucoup plus transparentes. Donc on a le, Vous voyez, quand on regarde une classe inertienne, donc l'induite parabolique d'un supercuspidane, d'un levier, donc Kn, Nf, donc pour que la représentation induite ou n'importe quel sous-quotient de l'induite ait un vecteur invariant sous Kn, si la supercuspidane a une vecteur fixe sous l'intersection. Donc c'est pour ça que ça marche bien. Et en fait, ça vient du papier de Bernstein et de Lin. C'est vraiment dans la preuve du théorème de Bernstein. Ça fait que si vous avez M est plus grand que N, alors bien sûr, là on a l'homomorphisme dont Z, N est le centre de HKN. Donc ça, c'est la flèche de transition, mais c'est un facteur direct. Donc on a ZM et ZN fois ZMN. Donc l'anneau est un produit de deux anneaux. Donc ça marche vraiment bien pour cette famille de sous-compacts ouverts qui sont en bonne position avec des levis. Sinon, ça s'embrouille un peu. Mais n'empêche que ça, c'est pas grave parce que comme cette famille, on peut remplacer la limite ici par la limite en N. Parce que tous les sous-groupes contiennent l'un de ces sous-groupes. Et on a aussi, si j'appelle CN le co-centre au niveau N, eh bien on a la décomposition ici, c'est HM, C de M, et aussi et le produit de CN fois C. NM. Donc CN est un ZM CN, ZM module, CNM c'est un ZM module. Donc c'est juste une histoire de composantes, ça décompose complètement. Donc en particulier ici, on voit bien que c'est la même chose que limite en N de HKN divisé par HKN. Et là, les flèches transition sont injectives. Et en plus, avec cette famille, on amène le fait dans l'autre sens. Et on peut définir le... On peut définir C comme le limite dans projectif de CN. Okay. Donc là, quand on prend les sous-groupes, quand on parle arbitraire, il n'y a que le fait dans ce sens, il n'y a pas le fait dans l'autre sens. Mais quand on prend dans cette bonne famille des sous-groupes qu'on porte ouvert, que si on soit bien en bonne position, on a le fait dans l'autre sens, parce que tout se décompose en produit direct. Donc on a... c'est le cosine de Bernstein. C'est pas exactement nécessaire, mais je crois que ça éclaircit un peu de. Donc c'est une sorte de limite. C'est une sorte de complétion du cosine. C'est une complétion de C de H du vrai cosine. De la même façon que le centre de Bernstein, c'est une sorte de complétion du centre de H. Voilà, donc l'un des intérêts ici, c'est qu'on peut maintenant faire de l'injection commutative en quelque sorte. On a cette Z, c'est l'injection, c'est le. le centre de Bernstein, qui est enfin, tout à fait gentil, sauf qu'il a un nombre infini de composantes. Et puis on a C, le cocentre, qui est un Z-module. Et c'est facile de voir que C est un Z-module localement de T fini. Vous voyez, donc sur N, donc sur une composante Zn, C c'est simplement ce Cn, et Cn est un quotient de Hn, et Hn lui-même est déjà le fini sur Zn, donc le quotient est aussi fini. Mais en fait, le quotient et le sens est presque la même chose, à peu de choses près. C'est que si je prends un point pi dans le crochet, donc un point dans la variété de Bernstein, donc je rappelle que j'ai cet ensemble oméga C qui est l'ensemble des classes d'équivalence inertielle, des représentations irréductibles lisses de G de F. Donc inertielle, ça veut dire que ça sont des sous-quotients de la même induite parabolique. Donc si pi ici, alors C, donc la φ de C de C de pi. Donc là, c'est la φ de ce module au-dessus de ce point est un vectorien de dimension finie. Est un C vectorien de dimension égale au nombre de représentations irréductibles de G de F qui soit dans cette classe inertielle. Dans cette classe inertielle. Donc par exemple, dans le cas, lorsque l'induite parabolique est irréductible, donc il y en a une seule représentation irréductible, et lorsqu'on prend l'induite du delta 1,5, et vous trouvez une extension du trivium par le Steinberg, donc là il y a deux représentations irréductibles, du coup le quotient a une dimension 2 de ce point. Voilà, donc... Donc la chose est aussi, bien sûr, composant par composant, c'est de type fini. Je crois que même, c'est même de type fini dans globalement, mais je crois que je n'ai pas besoin de des choses comme ça. Ça ne voit pas les multiplicités. Voilà, donc maintenant je vais introduire quelque chose qui aussi vient des travaux non publiés de Lafogue. La variété de Lafogue. En fait, je crois que c'est aussi présent dans les travaux d'Anne-Marie, mais je connais pas, je connais moins bien. Donc Lafogue considère l'ensemble rep de G de F, c'est l'ensemble des classes d'isomorphismes des représentations lisse et irréductible de G de F. Donc ça c'est naturel. Donc au lieu de prendre les classes d'équivalence, prendre les classes d'isomorphisme. Et l'assertion, c'est qu'il a cet ensemble à une structure et admet. Donc il admet une structure algébrique. Algébrique, naturelle, en quelque sorte. Donc il y a une variété algébrique sur les nombres complexes. Donc cet ensemble, c'est l'ensemble des C points, des points à valeur dans C. Et Lafogue donne même la recette pour définir cette structure. Il n'a pas de démonstration pourquoi ça marche, mais dans la recette, sa recette, c'est de prendre l'ingèbre de Ecker H. Donc chaque fois que vous avez un élément H dans H, vous pouvez définir la trace et pi, une représentation irréductible. Vous pouvez définir la trace de H sur pi. Donc ça fait une fonction. Donc la fonction pi dans trace de pi sur H est une fonction à valeur complexe sur reps. Eh bien, on prend simplement l'anneau. Il propose prendre l'anneau engendré par ces fonctions. C'est un peu bizarre, a priori, mais ça marche. On prend l'anneau de toutes les fonctions engendrées par la trace des opérateurs Hecker sur les représentations réductibles et prend le spectre de cet anneau et prend son spectre. Et son spectre alors contient son spectre et les C points de son spectre contient son spectre contient un ouvert de Zariski dont l'ensemble de C points est exactement reps de GDF. Ça, c'est l'assertion qui se trouve dans les papiers de Laurent. Alors, j'ai un étudiant qui a rédigé une démonstration de ce fait, alors, qui n'est pas très difficile, mais c'est assez joli. Donc, c'est une démonstration rédigée par Kostas Saromilikos. Donc ça, je rappelle un peu la construction qui donc la seule chose qui diffère un peu de la forme, c'est en fait d'abord on voit au lieu de prendre H, on peut prendre H aussi, mais en fait on pourrait aussi prendre le cocentre parce que de toute façon le commutateur ça n'a pas de trace. Et puis au lieu de penser ce cosine ou h qui est comme un vectoriel et puis l'ingèbre engendré un vectoriel qui est quand même vraiment énorme, on prend c'est comme un ingèbre sur le centre, donc c'est quand même plus raisonnable en construction. Donc on va prendre la chose suivante. On va prendre se mettre, donc après se localiser sur une composante, donc après localisation à une composante à un nombre fini de composantes de Bernstein, on peut se mettre, on se met dans la situation suivante. Donc on a un anneau A. A, c'est une C-ingèbre de type fini. Le type fini, ce n'est pas nécessaire, mais bon, il est de type fini. Et puis on commutative. Et puis on a R est une A-algèbre sous non commutative, mais qui est finie comme un module. Donc on pourrait penser A comme Zn et R comme Hn. Donc le centre de Bergson au niveau N et R c'est l'algèbre de Hecke au niveau N. Donc Hn est fini sur Zn. On pourrait même... ce n'est pas nécessaire, mais parfois c'est utile de... on pourrait supposer aussi que algèbre et R est contient dans le centre de R. C'est peut-être une bonne idée de ne pas supposer que c'est ça exactement le centre pour la raison suivante. Souvent, c'est commode de supposer que R est plat. Et plat sur A. C'est pas nécessaire. Enfin, pas, souvent, c'est pas nécessaire, mais parfois, c'est plus facile de formuler des choses quand c'est plat. Et si on enlève la condition sur le centre, ça, c'est facile à réaliser, parce qu'on sait par les théorèmes de Baverman, Guess-Gourie, Bernstein, Baverman et Guess-Gourie. On sait que Zn est cohérentement collé. Donc ça c'est facile parce que c'est l'algèbre des fonctions sous un temps invariant sur un groupe fini. Donc ce sont des choses qui sont cohérentement collées. Mais on démontre que Hn sont aussi des modules de cohérentement collés sur Zn. Donc ça c'est le théorème de Braverman, de Bernstein, Braverman et Guess-Gourie. Et ça n'implique pas que Hn soit libre sur Zn, soit localement libre, c'est faux. Mais si on. Parce que Zn n'est pas régulière. Mais si on suppose, si on prend An, soit An une sous-algèbre, régulière, de Zn, étant que Zn sur An soit fini, donc Zn soit une algèbre An, une algèbre finie, alors automatiquement, Hn est un An module localement libre. Donc ça c'est le théorème platitude miraculeuse du Ronaka. C'est pas très dur, mais enfin, c'est vraiment un truc qui est très utile. Quand on y pense que c'est comme assez miraculeux, c'est comme une algèbre de polynôme qui est sous l'algèbre de polynôme, au-dessus d'un autre algèbre de polynôme, le même nombre de variables. Alors si l'une est finie sur l'autre, alors tu vas être localement libre comme module. Ça, c'est le truc de Hironaka. Et ça s'applique très bien ici, parce que tous les deux sont cohérentement collés. Donc, le cohérentement collé, par définition, c'est libre sur un algèbre de polynômes. Sauf le problème, c'est que Zn en soi n'est peut-être pas libre, n'est peut-être pas régulière. Et bien, n'empêche, on peut le remplacer par un truc libre, un sous-machin qui soit régulière, tout en préservant que les finitudes. Donc on aura un module localement libre. Donc c'est souvent des choses qui, je ne crois pas c'est vraiment nécessaire, mais c'est souvent, c'est agréable d'avoir cette hypothèse localement libre. En tout cas, donc c'est pour ça que c'est bien de supposer que A, ne pas supposer sur le centre. Parce que si c'est le centre, on peut pas avoir on ne peut pas avoir le module localement libre. Alors, avec ça, une fois qu'on est dans cette situation, A est une algèbre commutative et R est une A algèbre finie et A dans le centre, on peut considérer le schéma de Hilbert. Hilbert non commutative. Il y a, dans la littérature, il y a plusieurs versions de schéma d'invariants commutatifs, mais celle que je prends, c'est la plus bête. Donc, c'est celle qui est la plus évidente. Il y a d'autres qui sont un peu plus élaborées, mais ça suffit amplement à ce qu'on veut faire. Donc, dans cette situation, donc, A, c'est un K algèbre. R est une K A algèbre qui est finie comme A module. Et A est dans le centre de R. Alors, on a le foncteur Hilbert de R sur A. Donc, c'est quelque chose qui va vivre au-dessus de spec A. Donc, il est associé à tout. B, c'est une A algèbre. On peut faire, comme c'est un schéma d'Hilbert, on peut définir le foncteur. Donc, ça consiste en R tense AB module M qui est plat. C'est comme Hilbert, c'est toujours plat sur l'anneau test, sur plat comme B module. Et il faut que ce soit un quotient de quelque chose fixe. Donc ici, c'est plus une surjection de R dans ce AB, dans M comme R dans ce AB module. Donc on considère simplement les... Donc B, c'est un truc variable, donc c'est essentiellement tous les quotients de R. Tous les quotients de R comme R module, et qu'ils soient localement libres au-dessus de A. C'est tout. Et donc là, c'est par le sorite usien de schéma d'Hilbert, on voit bien que Hilbert de R sur A est représentable par un schéma projectif au-dessus de spec A. Donc ici, de nouveau, tout ça, c'est truc vraiment bateau. On n'a pas du tout besoin que ça soit plat. C'est quasiment la même preuve de que Gauthier dit. Et donc, c'est en quelque sorte, c'est tous les R modules qui soient réalisables comme un quotient de R, donc relativement à A. Mais comme on aime bien arriver à des trucs irréductibles, donc il faut enlever des choses. Donc, Donc d'abord, on a ce Hilbert R1. Vous voyez bien que ça, c'est une réunion disjointe parce que par le rang D R sur A avec D dans un entier naturel. Donc qui D, peut-être que juste ici c'est M qui est localement, qui est un A module localement libre de rang R, de rang D. Donc ce truc là, ce sont des composants en trucs disjointes. Et puis on a aussi la version évidente de schéma des test Hilbert emboîté en quelque sorte. Donc N pour nest donc on fait la même chose, mais au lieu d'un M on a au moins une chaîne, on a la même chose. Donc R A s'envoie dans M, mais s'envoie dans M', un tout petit petit, avec des rangs différents. Voilà. Donc ici c'est de peut-être D et D'. Et D'. Donc D est plus grand que D'. Et donc bien sûr on a des flèches du schéma Hilbert emboîté dans tout le schéma Hilbert. D, simplement en oubliant le quotient D'. Et comme toutes ces choses sont des trucs projectifs sur spec A, eh bien l'image doit être un sous-schéma propre de ce Hilbert. Et le complémentaire de toutes ces images, c'est la partie irréductible. Donc le complémentaire dont définit on définit le I Hilbert, I pour irréductible, D de R sur A, comme le complémentaire l'ouvert complémentaire des images des Hilbert emboîtés. Donc il faut prendre des primes plus petits que D, bien sûr, peut-être plus grand que 0. Ça a un sens. Donc là, du coup, on a bien R sur A. Sur K, ça classifie des R modules simples. Ça classifie des R modules simples relativement à A. Donc c'est des R modules simples, tel que A agit par un caractère et R une R module simple. Donc c'est ça qu'on peut construire qui soit donné comme un quotient de R. Donc si on veut enlever cette rigidification, on peut prendre l'ensemble de groupes. C'est agréable de supposer que si R sur A est plat, eh bien on peut considérer le groupe, le schéma en groupe des R star au-dessus de A, en quelque sorte, tensorisé avec un caractère de A. Donc on avait comme une algèbre et vous pouvez prendre les aimants inversibles. Donc ça c'est un schéma en groupe, c'est un schéma en groupe lisse avec ce type de platitude. Donc j'appelle ça G de R sur A. Donc il agit sur tous ces bazars, tous ces schémas Hilbert. Donc ça, c'est pour le seul endroit où on a vraiment besoin de cette hypothèse localement libre. Le schéma en groupe existe aussi lorsque ce n'est pas localement libre, mais j'ai toujours du mal un peu à visualiser des groupes qui sont pas, des schémas en groupe qui ne sont pas plats. Voilà, donc c'est ça la version Hilbert. Donc c'est des choses c'est des modules qui sont des quotients de R. Et maintenant, pour réaliser la variété de Lafog, eh bien, on doit prendre la trace. Donc, c'est comme les traces des opérateurs de Hecke sur les représentations irréductibles. Mais si on tient bien le compte que le A, c'est le centre de Bernstein, donc il agit sur un degré du type 1 scalaire. Donc je pourrais faire le morphisme de. Introduire le morphisme de traces, ou de Brown-Nesbitt. Donc, c'est le morphisme qui. D'abord, on a le vectoriel de R sur A. Ça, c'est une fibre vectorielle de R sur A, qui, comme par définition, le B point, B est une A algèbre. C'est simplement les homomorphismes A de R dans B. Le morphisme alinéaire de R dans B. Et donc, par définition, c'est la même chose que l'homomorphisme d'algèbre de l'algèbre symétrique de A de R dans B. Donc, quand vous avez une appuyant linéaire, ça vous induit une homomorphie d'algèbre de l'algèbre symétrique. Donc, ceci, c'est en fait la même chose que spectre de sim AR. Donc c'est R plus sim 2R plus sim 3R. Quand c'est plat, il n'y a pas de problème. Quand c'est pas plat, c'est pas grave non plus. Donc vous prenez le. Donc si c'est plat, c'est peut-être plus confortable pour le. Mais le diffeomorphisme a un sens même si c'est pas plat. Donc ça, c'est une. C'est une vectorielle, c'est une fibre vectorielle. C'est généralisé si ce n'est pas plat, mais c'est une fibre vectorielle. Et en tout cas, c'est affine. Et vous avez morphisme de Brown-Nesbitt qui va de Hilbert. Vous voyez, quand vous avez un module, un R-module rigidifié, mais on oublie qu'il soit rigidifié, eh bien, on peut prendre la trace des éléments de R. Prendre la trace, ça vous donne un morphisme linéaire, donc ça vous donne un point ici. La trace, donc, bah, tiens, en fait, c'est un point dans ce vectoriel. Et donc, le point ici, c'est en fait ce machin, c'est propre. Le spec A, ce truc est affine. Donc ça, c'est le Brown-Nesbitt. Donc alors l'image de Brown-Nesbitt est un sous-schéma fermé de VRA qui est fini au-dessus de spec A. Donc ça a l'air un peu compliqué, mais en fait c'est un terme de base de géométrie algébrique nous dit que tout de suite que c'est un truc fini. Donc, en particulier si on prend le cet anneau bizarre de Laurent. Donc ça, c'est va être le spec, justement ce spec, de ce sim A de R divisant par I. Donc I, c'est justement l'idéal de toutes les fonctions, tous les éléments dans cet algèbre symétrique qui soient nuls dans l'image. Donc c'est des éléments qui sont nuls dans toutes les représentations. Eh bien, on a donc cet anneau, donc l'une des conséquences de cet anneau, donc I, c'est un truc qu'on ne connaît pas, mais par ce fait de base, on voit que ça c'est ce quotient est fini comme un algèbre. Et ça me fait que c'est l'image du schéma de Hilbert. Et voilà, donc ça, cet anneau-là, bien sûr, ici je prends R, l'algèbre de Hecke, mais je pourrais très bien prendre R, le cocentre. parce que de toute façon, la partie commutateur, ça va s'envoyer dans l'idéal. Donc ça revient au même. Et donc, on prend l'algèbre symétrique du co-centre comme un module du centre, en divisant par l'idéal, de l'idéal abstrait, qui induit des fonctions nulles sur les représentations, et bien on trouve un truc fini. Bon, vous voyez bien aussi R est égal à A, qui n'est pas vrai, mais c'est... Alors bien sûr on a une... Ça fait une flèche de A dans R. Voilà. Et donc ça c'est le spectre de cet anneau de ça c'est l'anneau que Laurent a considéré. Eh bien on a l'ensemble de reps des choses du type c'est simplement l'image de cet ouvert I rep ici que c'est une chaîne ouverte. Et ici on utilise le terme de Bauer-Nesbitt qui dit que deux éléments, si deux modules simples s'envoient sur le même point, qui ont la même trace. Alors le Brown-Nesbitt nous dit que c'est des deux modules sont isomorphes. Et donc, en conclusion ici, c'est qu'on a le... On a que si on se restreint schéma d'Hilbert irréductible. Qu'ils envoient dans ce. Il faut que je donne un nom à ce truc. Alors comment. Bon, j'appelle ça S, meilleure notation. Donc c'est. Si on voit S' est un ouvert de Zariski et ici on a l'action de ce chemin en groupe, G de R sur A. Et donc le G de R sur A agit transitivement dans les fibres du Brown-Nesbitt prime qui va de Hilbert irréductible dans ce S prime. Donc si on contracte les fibres. Donc ça c'est bien là, c'est le voilà. Donc en fait tout ça marche exactement comme ce que Laurent postule, mais pour la seule chose qui pour réaliser techniquement c'est mieux de prendre tout au-dessus de Weidel-Berstein. On aura le truc fini. Au lieu de travailler avec spectre d'un module de type infini, donc un peu plus redoutable. Donc là, il n'y a aucun problème. Simplement, il y a une base. Mettre la base de... Voilà, et... Il y a un point qui est... Il y a un point qui n'est... Il y a un point qui est un peu une parenthèse, mais qui peut être intéressant, c'est de... on peut... il y a l'une... Donc on a cette cette variété de la Forgue qui s'envoie sur... Donc pas construction, mais s'envoie sur la variété de Berstein, pas construction. Et c'est quasi fini. Donc on a bien un truc fini qui le contient comme comme un ouvert de Zariski. Et on a oméga prime, on a l'ouvert des induites irréductibles au-dessus de Ken, on a ce certain isomorphisme. Et c'est juste une parenthèse, il arrive qu'on peut cantuler dans certains cas. On peut calculer c'est l'ouvert irréductible oméga prime explicitement. Donc ça c'est un problème qui est beaucoup traité dans la littérature. Je ne connais pas exactement quel était l'énoncé le plus général dans la littérature. Mais ici, au moins, si on suppose, justement ici, il faut supposer que R, donc là, on suppose que R soit un A module localement libre. Donc, justement, ici, je dois supposer. Oui, A module localement libre. Et donc R est une A algèbre. Algèbre centrale. Donc, A est dans le centre de R. Eh bien, donc vous pouvez introduire le donc R. Pour chaque point A dans le spectre de A, vous avez RA, c'est une K-algèbre finie. Et vous pouvez considérer le J de R de A, c'est son idéale de Jacobson. Sobridian Jacobson, par définition, c'est l'annulateur de tous les modules simples. Donc c'est un idéal bilatère. Par le théorème de. C'est J de 1. Donc, par le thème de. On a R de A sur J de A, c'est un produit d'algèbre de matrice. Des matrices sur des algèbres à division. Ça, c'est un Martin Wendenberg. Donc, si vous pensez que les nombres ici sont des modules simples, les nombres de n, c'est des modules simples, et donc, dans le cas de l'algèbre de Hecker, dans le cas qui nous intéresse, justement, le lieu d'irréductible, c'est le lieu où le. Où Lian Jacobson est nul. Donc, la fonction de A dans la dimension de J de 1 est semi-continue supérieurement. Et ça, je n'ai pas démontré, mais je crois qu'il peut. Dans le cas où A, c'est Z de N et R et H de N, c'est très probable que A soit dans oméga prime, c'est donc la partie irréductible, induite irréductible, si seulement si le lien Jacobson est nul. Et le lien Jacobson, enfin, c'est très facile à calculer. C'est justement la flèche J de A. C'est la flèche qui va de. C'est le noyau de la flèche de R1 dans RA dual. On n'est pas la trace. Ça, c'est la. Donc sur RA, vous avez la trace de X fois X, l'accouplement de trace XY dans trace de X fois Y, et donc la flèche de RA dans RA dual. Et si vous regardez cette décomposition de Artin-Wardenberg, vous voyez bien que l'idéal de Jacobson, c'est exactement le noyau de la trace. Donc ça se calcule. La trace, ça se calcule. Et. Costas, il a bien vérifié ça. Costas, Salo Miklikos, a vérifié que c'est correct. Correct parce que G est un groupe adjoint. Et pour la composante d'Iwaori. Donc ça. Ça donne exactement le même résultat que le théorème de Sato, de Kato. Kato a calculé le lieu d'irréductibilité de l'induite de série principale. Et ça marche, ça pourrait se démontrer d'autre façon comme ça. Et je veux dire qu'il faut cette hypothèse adjointe, parce que c'est dans cette hypothèse-là, on voit qu'on peut prendre A le centre. Et l'algèbre de Hecke est finie localement libre sur le centre. Si A n'est pas adjointe, donc on a un défaut, donc A n'est pas régulière, donc l'algèbre de Hecke n'est plus finie sur le centre, donc ce truc-là se calcule moins bien. Ça se calcule vraiment bien lorsque c'est localement libre. Et donc si on remplace le centre par un truc plus petit qui soit libre, comme il y a des choix qui n'ont pas donné, on va avoir des problèmes. Mais je ne sais pas si c'est vraiment un truc utile, mais je trouve que c'est joli. Parfois, on peut calculer directement par cette morphologie de trace. Qu'est-ce que je veux dire plus? Ah voilà, donc maintenant, je peux, avec tout cela, je peux introduire les transformations de la Fogg. Donc là, c'est des choses qui apparaissent dans d'autres parties des travaux de Laurent Lafogg, qui dans ces papiers qui sont pas reliés, mais ils se trouvent ici, ça sont en fait les non reliés. Donc on a le centre de Bernstein Z et on a le cosine de Cashdan C. Et on peut prendre le parti fini ou pas. On a toujours un morphisme canonique, la forme prime qui va du cosine vers le centre. Et je crois qu'il y a une fête dans le sens inverse aussi, mais là je vérifie que dans le cas SN2. Alors comment ça marche? Au moins on doit avoir ici Z dans Z et F dans C. Et si on prend pi dans oméga prime, donc c'est le lieu, l'ouvert d'irréductibilité d'induite, et pi, justement l'induite est réductible dans rep, alors Ce qu'on veut, c'est on veut que la trace de f sur pi soit la même chose que le scalaire gamma de z sur cette classe d'inertien pi. Donc ça paraît un peu différent ici, l'opérateur agit par un scalaire. Donc on n'a pas de trace, c'est une dimension finie. Mais on veut que ce scalaire-là soit exactement la trace de l'opérateur du élément correspondant dans le cocentre. Donc dans les deux sens, mais ici, cette flèche est complètement bien définie. Parce que donc la for prime est bien définie en général. Par le théorème de trace. Enfin, je crois que je n'ai pas besoin de ça, de trace, de Paliwiner. Donc si j'ai f dans C, j'ai f soit dans C, alors pour toute pi dans reps, je peux avoir la trace de pi sur f, et plus généralement, je peux prendre la trace sur les représentations de longueur finie. Donc on a la trace de f est une forme linéaire du groupe Le Rotendick des représentations de représentation lisse de type fini de G, donc ça c'est le groupe de Rotendick, donc comme ça ici on peut avoir des induites qui sont réductibles et la condition c'est que cette fonction là si sigma est une cuspidale de L dans le vide, alors la fonction de trace de F sur l'induite de N à G de sigma tordu par un caractère qui est un caractère non ramifié de l'induite. Donc ça devient une fonction sur la variété des caractères non ramifiés de l'induite. Et je veux que ces fonctions soient algébriques sur cet ensemble-là. Et le théorème de trace de Paliwiner, qui est ici dû à Bernstein de Lin et Kasdan, dit que F, c'est un élément dans C, si seulement si on a cette forme linéaire qui vérifie cette condition, donc que ce soit algébrique par rapport à la torsion de, par le caractère non ramifié de l'induite, non ramifié du levier. Et en plus, il faut que la fonction soit k-finie. Donc, ça supporté par non-finie composante dans la valeur de Bernstein. D'accord? Mais si on prend le. Donc, ça, c'est C dans C fine, dans H fois H. Mais si on prend le cosin de Bernstein, la complétion, on peut justement enlever cette condition de k-fini. Non, mais ça n'a pas grande importance, mais enfin, c'est. Donc, une fois qu'on a, cette fonction, donc il faut que j'insiste que ici je peux avoir des choses qui sont réductibles par linéarité et du coup cette fonction là ça me définit bien une fonction pour tout élément de f, ça me définit bien une fonction sur la variété de Bernstein parce que cette fonction là est algébrique. Et donc, ça me fait une fonction dans le sens de Bernstein. Et justement, si je commence par f dans C fine, qui est vraiment dans le cocentre, alors j'atterris dans la partie finie du sens de Bernstein. donc les éléments du centre de Bernstein qui soient supportés à nombre fini de composantes. Dans le sens inverse, c'est j'ai un problème parce que le C est toujours un peu plus gros parce que le C distingue le Trivian et le Steinberg. Alors, à partir du son de Bernstein, que je n'ai une seule valeur pour les deux. Parce que pour l'induit, je sais ce que c'est, quelle est la valeur sur l'induit parabolique. Alors, dans le cas du. Donc, justement, dans le cas de SN2, par exemple, on peut prendre la forme telle que. La forme telle que la forme de Z, la trace de la forme de Z sur le trivial, soit nulle. Ça me fait une flèche. Par la Steinberg, ça me fait une autre flèche. mais je suis sûr, au moins, que si je prends ce choix, là, c'est particulièrement mystérieux, pour moi, je ne comprends pas, mais c'est comme ça le Cantuin qui donne que si on prend ce choix-là, il demande que ce soit trivial sur la. Ce soit zéro sur la triviale, alors la forme peut être donnée par une transformation intégrale, par la transformation de la forme donc, que j'ai écrit la première séance, mais je reviens là-dessus. Alors pour l'autre, je sais pas. Pour l'autre, c'est pas sûr. J'écris la formule nouveau, donc si on prend fini et stable, alors par ce choix qui a pris un peu surprenante, on aura la forme de J. Donc, parce que c'est fini et stable, je peux écrire Z comme J de J. J de G. Alors DG c'est le mesure de R et J c'est une fonction de la variable trace. Donc comme c'est fini, c'est toujours le produit de mesure de A par une fonction invariant localement intégrable. Et comme c'est stable, la fonction est même définie par la trace. Donc c'est juste une fonction d'une variable. Et ici, alors, on a la forme de Z va être donnée par cette formule vraiment étonnante de J divisé par la valeur absolue. Donc ça, c'est la formule aussi dans la forme, une autre partie du papier de la forme. Donc on prend la fonction qui représente le dimension de Bernstein, on prend le transformation de Fourier, et on divise par la valeur absolue de la variable duale, on fait la Fourier inverse, et bien on trouve cet élément dans le cocentre qui vérifie cette équation dans un sens stable. Et c'est vraiment important pour toute cette histoire que je vais raconter là. L'arcémoisson et le co-centre. Et voilà. Donc, vous voyez bien que ça, par définition, vous voyez bien que à cause de cette multiplication ou divisée par dual, la transformation de Fourier doit être 0 sur 0. 0 sur 0, ça veut dire qu'en fait, que la trace sur la triviale est nul. Voilà. Donc cette formule algébrique est en quelque sorte une force que la trace sur la triviale soit nulle. Mais vous voyez que à la fin de mon cours, je reviens sur ce choix. Pour d'autres raisons, on va prendre tout ce Steinberg qui est pour autre chose. Alors ici, pour la forme algébrique, on voit pourquoi il y a cette un peu confusion. C'est parce que, vous voyez bien que donc je dessine un peu ici mon variété de Bernstein. Donc là, c'est mon induit, c'est la partie dimension A. Et puis il y a le truc discret. Et en fait, le co-centre, il est quasiment égal au centre. Sauf pour SN2, sauf un seul point. Où on a le Steinberg et le trivial. Donc c'est un module qui est partout libre de dimension A, de rang 1, sauf en ce point. Donc, quand il y a un tel module, la partie libre est un quotient. Donc voilà, on a ce morphisme de C vers Z. Et il y a un noyau. Il y a la partie C torsion. Donc ça, c'est un truc canonique. Quand vous avez un module sur une variété de dimension au plus 1, vous avez la partie libre et la partie torsion. Donc la partie libre, il se trouve, et c'est exactement Z. Et cette flèche-là, c'est la force prime. C'est simplement, on va essayer sur sa partie sans torsion. Et le noyau, c'est un truc de torsion qui est supporté par ce point. Et parce qu'en ce point, on a le trivien et le Steinberg qui cause un petit problème. Mais on a beaucoup de... Là, il y a les sections, ici, il y a des choix. Donc au moins, il y a deux choix qui sont meilleurs que d'autres sur la trivia et la Steinberg, mais il y a d'autres choix. Je ne comprends pas bien quels sont les autres choix, mais il y a un espace de dimension 1 de relèvement possible. On a droit à des faits de relèvement qui soient des Z linéaires aussi. Donc il y a un espace de dimension 1. Donc il y avait avec deux points. Donc au moins il y a un point là, avec ce choix qui est algébrique du point de vue géométrique. Et aussi, ça nous dit qu'il faut travailler sur le truc stable. Parce que si sur un truc stable, on a le... S'il y a un stable, donc on travaille sur cette variété de cases de conjugaison. C'est juste une variété, ce n'est pas les points d'une quantité algébrique. Donc il n'y a aucune formule algébrique possible parce que ce n'est pas une variété algébrique. Alors une fois qu'on a le truc stable, ça devient une variété algébrique. Donc au moins, on a une chance de créer des formules qui ont une allure algébrique, en quelque sorte. Et voilà, donc c'est ce que je vais raconter aujourd'hui.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.